Voilà, c'est bientôt la fin du Zman à la Yeshiva. D'accord? Donc la Yeshiva finit dans quelques jours, dans une semaine. Et nous allons, malheureusement, devoir affronter les épreuves de la vie. D'accord? On a la Yeshiva, donc ça fait déjà au prochain quelques mois. Et on a réussi, on est entouré de Rabbanim, on est entouré de Bahurim. D'accord? L'ambiance est à la joie de Torah. On arrive à se maintenir, à rester des bons juifs. Pourquoi? Parce que, bon, on est toute la journée plongé dans la Torah, on baigne dans la Torah, et donc, on a cette facilité. En quelques jours, quelques-uns d'entre vous vont retourner en France, et là, les épreuves vont commencer, ça va être très difficile. D'accord? Comme tous les ans. Tous les ans, le problème, Ben Azmanim, c'est une hécatombe. Les Bahurim reviennent avec la tête basse. Ils ont rencontré beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes, beaucoup de... Bon, c'est difficile. L'ambiance en France n'est pas aussi saine pour un juif que celle de la Yeshiva. Donc la question est comment résister à cette influence du Yetzer Hara, à cette influence, cette mauvaise influence pendant Ben Azmanim. D'accord, monsieur? C'est un sujet intéressant. Alors, pour traiter ce sujet, on va ramener quelques petits exemples. Comme vous le savez, comme vous ne le savez pas, la criminalité à New York a, on va dire Baruch HaShem, parce que ça a sûrement aidé beaucoup de gens, a diminué. Il y a de moins en moins de criminalité à New York. Vous savez pourquoi? Par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ou 15 ans. C'est pourquoi?
Le livre jaune.
Non, pas le livre jaune. Le livre jaune n'était pas encore sorti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le livre jaune, ça serait vraiment le Gan Eden là-bas. Non, la raison pour laquelle la criminalité a réduit à New York, c'est parce qu'on a changé le chef de la police. Le chef de la police, il a décidé de travailler autrement. À savoir qu'avant, la chita, la façon de travailler, c'était quoi? C'est qu'on essayait d'attraper les gros gangsters, les grands malfaiteurs, d'accord? Les grands mafiosos, on essayait de les attraper. Les petits, on ne s'occupait pas d'eux. Et on s'attaquait directement à ceux qui tenaient les rênes. Bon, ça a eu son charme pendant un certain nombre d'années. Bon, lorsque le chef de la police a changé, il a dit « on va changer la chita, on va travailler autrement maintenant. On ne va plus s'attaquer aux gros, on va s'attaquer aux petits. » Ils ont ouvert des prisons spéciales, d'accord, où là-bas, on allait accueillir les petits délinquants. On allait tellement leur faire peur, on allait tellement les casser, que les gros gangsters n'auraient plus de petits délinquants qui travailleraient pour eux. Et donc comme ça, on réussirait à réduire la criminalité. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Le moindre petit gangster, le moindre petit délit qu'on attrapait, le moindre petit personne qui faisait un délit, on l'attrapait, on le punissait, on le mettait en prison, on lui criait dessus. Et du coup, les gens, les jeunes, avaient peur de faire du mal. Et grâce à ça, la criminalité, elle a réduit. Donc il y a deux façons de se battre contre le mal. Ou bien on s'attaque au gros mal, ou bien on s'attaque autrement, on s'attaque au petit mal. Les deux chitotes sont honorables, sont bien, mais ça dépend où on se trouve et dans quelle ambiance on se trouve. Quand on se trouve à la Yeshiva, on peut se permettre de faire commencer à travailler sur des grandes choses, travailler sur les grands problèmes de la vie, et travailler les choses au shoresh, à la racine. Mais lorsqu'on n'est pas la Yeshiva, lorsqu'on est en dehors, ou est-ce qu'on a une vie, un train-train, tous les gens qui ne nous permettent pas de nous élever de cette façon-là, alors il faut trouver une autre chita. Et l'autre chita, l'autre façon de faire, ce qu'on va dire, c'est de travailler sur les petites choses. Alors, pour travailler sur les petites choses, on va donner quelques petits exemples qui vont nous permettre, Bezrat Hashem, justement de combattre le Yetzer Hara de façon, on va dire, plus efficace dans le contexte où on va être. D'accord? Il y a deux façons de se battre contre le Yetzer Hara. D'accord? Le verset, il dit « Sourmera ve'asetov ». Sourmera, c'est quoi Sourmera? Fuis le mal, ve'asetov et fais le bien. D'accord? En réalité, chaque homme devrait d'abord éliminer le mal qu'il a en lui, et seulement ensuite s'adonner à faire le bien. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne va pas rentrer dans tous les détails de cette mimra. Mais une chose est sûre et certaine. Les Balai Amoussar, mon Majgar, la Yeshiva, ils nous disaient qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'on doit commencer par Barasetov. Fais le bien, et en faisant le bien, tu vas réduire le mal, tu vas enlever le mal de toi. Qu'est-ce que ça veut dire de faire le bien? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'en faisant le bien, ça va enlever le mal? J'ai cherché lui, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, on va essayer d'expliquer ce que le Chazonish dit dans son livre Emouna ou Bitaron. Vous avez entendu parler du Chazonish? Chazonish, Adam Gadol, c'est un grand personnage. Il a écrit beaucoup de livres, d'accord? Et entre autres, à la fin de sa vie, il a écrit un livre, enfin, à la fin de sa vie, on l'a publié à la fin de sa vie, c'est ce qu'on appelle Emouna ou Bitaron. Là-bas, le Chazonish va développer tous les sujets, en profondeur, des sujets de Emouna, de croyance, et de Bitaron, et de confiance en Dieu. Et là-bas, hein, il dit une chose extraordinaire, je pèse mes mots quand je dis extraordinaire, c'est vraiment du miel, qui sera très utile. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Chazonish là-bas dans le quatrième Pérec? Bon, je ne me rappelle plus du langage, donc vous m'excusez, je vais vous expliquer baralpé par cœur ce qu'il dit, plutôt que de le citer. Il dit qu'en général, on a tendance à croire que le mal chez une personne, d'accord, quand on parle du mal, on parle de ses mauvais traits de caractère. Vous savez que lorsqu'on va parler du mal, on ne va pas parler forcément de faire des avérotes. On va plus parler de faire des fautes. On va parler de la tendance à vouloir faire des fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, en réalité, il est régi par des traits de caractère, il est régi par des... Comment on dit traits de caractère en français? Ah, c'est en français, traits de caractère. Par les midotes, d'accord? Ces midotes-là, ces traits de caractère-là, c'est eux qui vont l'entraîner à faire des fautes. Lorsqu'on va parler de lutte contre le mal et et faire le bien, on va parler des traits de caractère de l'homme. Je fais une petite parenthèse. Sachez qu'en réalité, un homme qui arrive à maîtriser ses traits de caractère, qui arrive à parfaire ses traits de caractère, il a en réalité devant lui le chemin pour devenir un tzaddik parfait. D'accord? On ne peut pas devenir un tzaddik, d'accord, sans travailler ses traits de caractère, sans nettoyer ses traits de caractère. C'est impossible. Mis à part ça, c'est le but. Tout le but des mitzvot, tout le but de la Torah, c'est justement arriver à la shlemout, à la perfection. De quelle perfection on parle? De la perfection de l'être, à savoir de parfaire ses traits de caractère. Et ça, c'est le travail de l'homme, de devenir un homme. Mensch, comme on dit. D'accord? Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que justement ces traits de caractère qui nous empêchent de devenir des bons juifs? Par exemple, l'exemple le plus, on va dire, le plus facile à comprendre, la fainéantise. La fainéantise, c'est vraiment le trait de caractère de notre génération qui justement nous empêche d'être des bons juifs. Pourquoi est-ce que la fainéantise, ça nous empêche d'être des bons juifs? Alors, très facile à comprendre. Un homme qui est fainéant, d'accord, on va dire, donc il a un problème de l'itametz. Comment on dit l'itametz? De s'efforcer, de faire un effort à. Il a du mal à se lever le matin, et donc s'il se lève, il a du mal à se lever le matin, forcément, il va traîner la patte pour aller étudier, il va traîner la patte pour aller à Betaknet le matin, d'accord, il va traîner la patte pour aller travailler. S'il est feignant, il aura aussi du mal lorsqu'il va étudier à vouloir s'efforcer de se casser la tête pour mieux comprendre les choses. Il voudra absolument à comprendre les choses avec facilité. C'est pour ça que les hommes, on est très attirés à aller voir un film ou aller écouter un film. D'accord? Pourquoi? Parce que le film, en réalité, c'est un outil, c'est une chose extraordinaire pour le feignant. Tu t'assois, tu ne te casses pas la tête, et le film lui-même, il te raconte tout. D'accord? Et chaque petit détail du film, il est là pour justement, pour que tu te casses le moins possible la tête. Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai longtemps que je n'ai pas vu de film, mais je pense que plus ça va et plus on te mâche le film, tu as besoin de te casser la tête. Tu t'assois, tu regardes et tu gobes. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par ça? Parce que l'homme de nature, il est feignant, il n'aime pas trop se casser la tête. Donc se mettre devant une page de Gomara et commencer à se casser la tête, à vouloir comprendre quelque chose, pour un feignant, c'est trop difficile. Donc on voit juste un trait caractère qui est la feignantise, qui nous empêche d'avancer dans la vie. D'accord? C'est pas seulement dans la Avodat Hashem, c'est dans la Avodat tous les jours, de devenir Stam un monsieur honorable. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on cherche à gagner sa vie de façon malhonnête? Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas être honnête? Pourquoi tous les gens ne veulent pas travailler de façon honnête? Pourquoi? Parce qu'on est feignant. On veut gagner beaucoup sans trop se casser la tête. C'est plus facile. On cherche la facilité. Et plus on va à Stam, plus la génération, elle va dans cette facilité. Donc celui qui arrive à annihiler, ça se dit, annihiler, la feignantise qu'il a en soi, alors il a un chemin qui est tout tracé, non seulement pour devenir un bon Eved Hashem, mais aussi pour réussir dans la vie, réussir dans son travail, réussir dans son couple quand il va se marier, parce que aussi les problèmes conjugaux, ça vient aussi beaucoup de feignantise, on n'a pas envie de faire des efforts avec sa femme, ou une femme n'a pas envie de faire des efforts avec son mari, avec les enfants aussi, l'éducation des enfants, pourquoi est-ce qu'on éduque mal nos enfants? Parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête trop, allez vas-y, tiens, prends un... prends un billet, laisse-moi tranquille. Tiens, qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? Oh là, tiens, vas-y, prends un jouet et ne m'embête pas. Laisse-moi me poser, laisse-moi tranquille. On ne veut plus éduquer, on est feignant. Donc celui qui arrive à effacer la feignantise de lui, très facilement, il aura un chemin tout droit pour devenir un vrai bel Adam. D'accord, ça c'est valable pour tous les traits de caractère. On a parlé juste de la feignantise parce que c'est vraiment celui qui prédomine. Bon, je sais pas si le mot prédomine. Bon, l'orgueil aussi, l'orgueil, un homme orgueilleux, d'accord, c'est un homme qui n'est pas aimé de la société. D'accord, on n'aime pas un homme orgueilleux. Si un homme, il arrive à... Pourquoi d'abord on est orgueilleux? Parce qu'on veut absolument s'élever au-dessus des autres. On a une certaine amour de soi, un kavod, on veut s'élever au-dessus des autres. D'accord? Et ce vouloir, cette volonté de vouloir s'élever au-dessus des autres, c'est elle qui va nous gâcher nos relations avec les autres. Si un homme, il est capable d'enlever cet orgueil-là, et se faire petit dans toutes les situations, il va être aimé, apprécié, d'accord? Et là, il va pouvoir, comme ça, grandir dans la société, grandir son avodat Hashem très facilement, etc. Donc on voit qu'en réalité, les traits de caractère, c'est eux les mauvais traits de caractère, c'est eux qui nous empêchent d'arriver à progresser dans l'avodat Hashem. D'accord? C'est clair? Maintenant, il y a deux façons de traiter, de travailler, de lutter contre les mauvais traits de caractère. On va revenir bientôt au Razonish. Il y a deux façons. Ou bien, je prends mon livre, Ochot Sadikim, d'accord? Ochot Sadikim, c'est un livre là-bas qui traite des mauvais traits de caractère. Et on va commencer l'orgueil. Ah, l'orgueil, c'est pas bien. On va commencer à travailler. Mamash, franchement, lutter de façon directe contre l'orgueil. On va commencer à se mettre dans des situations où on va s'humilier devant tout le monde, on va prendre sur soi. Enfin, je ne sais pas quel exemple là-bas il ramène pour lutter contre l'orgueil ou la feignantise. Alors on va se forcer à, on va dire à son copain, voilà, à 3h du matin, tu vas dire, tu vas me jeter un verre d'eau dans la figure et tu vas m'obliger à me lever du lit et comme ça, bah, je me travaillerai mon orgueil. C'est certainement une façon de travailler son orgueil, mais bon, c'est une façon, on va dire, qui est hard, qui est dure. Ça peut marcher, ça marche peut-être à émettre. En réalité, c'est comme ça qu'on éduquait les générations précédentes. À savoir un gosse qui ne se levait pas, on lui jetait un verre d'eau dans la figure, il se levait, après la deuxième fois, trois fois, il n'osait plus rester au lit. D'accord? À l'armée, c'est ce qu'on fait. À l'armée, il y a un soldat qui se relâche un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On l'éduque à la dure. Ah oui, hop, paf, on lui met. D'accord? Et deux, trois fois, à la fin, il arrive à s'éduquer. Donc ça, c'est la façon, on va dire, art de travailler ses traits de caractère. Bon, aujourd'hui, je ne sais plus si c'est tellement adapté ce genre de façon de faire. Bon, certaines personnes qui ont peut-être les forces de faire ça, la brioute. En tout cas, pour les autres, comment on fait? Pour nous, d'accord, qui sommes des petites natures. D'accord? Et on n'aime pas qu'on nous parle durement, on n'aime pas qu'on nous brusque, d'accord? On aime les choses gentilles, comment est-ce qu'on fait? Alors, revenons au Razonish. Le Razonish, lui, il dit qu'on a tendance à croire qu'il y a plusieurs mauvais traits de caractère et il y a plusieurs bons traits de caractère, plusieurs bonnes midotes et plusieurs mauvaises midotes. C'est-à-dire que il y a l'orgueil, la feignantise, la radinerie, toutes ces choses-là, la jalousie, donc tous ces mauvais traits de caractère, d'un côté, et de l'autre côté, il y a tous les bons traits de caractère. Ouais. On a tendance à croire que tous ces traits de caractère ne sont pas liés les uns avec les autres. Oui, Razonich, premier point, c'est faux. Tous les mauvais traits de caractère et tous les bons traits de caractère sont intimement liés. En réalité, il n'y a pas des mauvais et des bons, il y a un mauvais et un bon. C'est quoi le mauvais? Le mauvais, c'est la tendance de vouloir faire le mal. Le bien, c'est quoi? Les bons traits de caractère, c'est la tendance de vouloir faire le bien. D'accord? Chaque homme naît en lui avec un potentiel, une attirance vers le mal et une attirance vers le bien. Maintenant, cette attirance à faire le mal, ou le bien, on va parler du mal, elle vient s'exprimer chez la personne sous certaines formes, c'est-à-dire les symptômes. Il y a une maladie, et cette maladie s'exprime chez la personne de plusieurs façons. D'accord? Donc cet homme-là est malade, et chez lui, sa maladie, il va avoir un bouton de fièvre d'orgueil, et il va avoir une crampe de radinerie. D'accord? Ça vient s'exprimer de cette façon-là. De la même façon, le bien chez lui, il y a une tendance à faire le bien, et cette tendance à faire le bien, elle vient s'exprimer chez lui par il va être généreux, ou il va être sympathique. D'accord? Mais en réalité, tout est lié. Non seulement tout le mal, tous les traits de caractère mal sont liés, et tous les traits de caractère sont bien, mais plus que ça, le bien et le mal, ils sont intimement liés. À savoir, si un monte, l'autre descend. Donc le Razonich, on déduit des paroles du Razonich, que là nous avons un moyen, une technique extraordinaire pour annihiler le mal, effacer nos mauvais traits de caractère. Comment? Tout simplement. Ou bien tu vas lutter contre ton mal, ou bien autrement, tu vas augmenter ton potentiel en bien. Plus l'homme va faire du bien, et plus le mal qui est en lui va diminuer. Je fais une petite parenthèse. Vous savez qu'il y a marqué que mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sens simple de cette mimra de Chazal, c'est qu'il n'y a pas assez de richesse dans le monde pour payer la mitzvah que tu vas faire. Un homme qui a fait une mitzvah, d'accord, c'est un salaire extraordinaire, il doit recevoir un salaire extraordinaire de cette mitzvah-là. Mais comme il n'y a pas suffisamment de richesse dans le monde, bon, pourquoi, on pourrait expliquer une autre fois, pour payer cette mitzvah-là, alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te donne la possibilité d'en faire une deuxième. Donc la récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Donc ça, c'est le sens simple. Mais un autre sens de mitzvah goret mitzvah, lorsqu'un homme va faire une mitzvah, forcément, il va augmenter son potentiel de bien. Il va augmenter son bien. Oui? En augmentant son bien, il va réduire le mal. Et donc, son bien, il va être plus fort. Il aura envie d'en faire encore du bien. Si vous vous trouvez à une intersection, un feu, comme ça, il y a un petit vieux qui essaye de passer, et vous arrivez comme ça, David arrive, et commence à faire traverser le petit vieux. Donc il traverse la rue, qu'est-ce qu'il est David? Ah, il se sent sadique, il se sent bien, ah, j'ai fait une mitzvah. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui vient avec une boîte de Zdaka, 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 qu'est-ce qu'il va faire David? Tout de suite, il va sortir un billet de 50 euros, il va mettre dans la Zdaka. Pourquoi? Pourquoi ce phénomène-là? Tout simplement, il a fait du bien, alors, il a des ailes. Pourquoi est-ce qu'il a des ailes? Justement, il a augmenté son côté bien. Et donc son côté mal, parce qu'en réalité il était peut-être radin, son côté radin va diminuer. D'accord? Donc, voici un moyen très, en réalité très facile de lutter contre le mal, de lutter contre nos mauvaises tendances. Comment? En faisant des bonnes choses. Augmentons notre bien et nous allons ainsi réduire notre mal. Maintenant, donc ça c'était pour le principe. Maintenant, revenons à la petite criminalité, la grosse criminalité. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter son bien et comment est-ce qu'on fait donc qui va nous permettre de réduire son mal? Il y a plusieurs façons, ou bien faire des grandes mitzvot. C'est quoi faire des grandes mitzvot? On va dire aujourd'hui venir à la yeshiva, oh ça c'est une grande mitzvah extraordinaire, ceux qui viennent à la yeshiva, forcément au bout de quelques mois, il est transformé. Mais bon, là on parle de ceux qui vont maintenant justement partir de la yeshiva pour la France. Comment est-ce qu'on va essayer réussir à maintenir ce bien, à augmenter ce bien-là? L'homme, il a beaucoup d'épreuves. D'accord? Et ces épreuves-là, c'est lui qui le traîne à faire du mal. Donc nous, qu'est-ce qu'on nous cherchons maintenant? À enlever ces épreuves-là pour lui permettre justement de faire du bien. Les épreuves, en général, le Yetzer Hara, hein, lorsqu'il se bat contre nous, il a plusieurs armes. Une des armes, c'est la Emouna. C'est quoi la Emouna? Bon, c'est aussi un sujet très, très vaste de parler de Emouna sur un pied. C'est quoi la Emouna et c'est quoi le contrat de la Emouna? Vraiment une définition très très simple. La Emouna, c'est d'avoir, de croire, la croyance, la Emouna, à Kol Met Hashem, tout est de Dieu. Tout est de Dieu. Le contraire de la Emouna, c'est quoi? Non, tout n'est pas de Dieu. Il y a Dieu, mais il y a aussi des forces qui font que il m'arrive ça et qu'il m'arrive ça. D'accord? Le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son travail? Il nous pousse à croire que quoi? Que non, ce qui t'arrive là, c'est pas Dieu, pas du tout, c'est autre chose, c'est ton copain qui te veut du mal, ou c'est mettre le mec qui t'a fait une queue de poisson, c'est lui, c'est pas Dieu, ça n'a rien avec Dieu. Il essaye de détacher la réalité que nous vivons d'Hachem. Et lorsqu'un homme, il détache sa réalité, il détache ce qu'il voit d'Hachem, c'est-à-dire qu'il va commencer, lorsqu'il va arriver, il va voir quelque chose, il va ne voir que l'extérieur, que la matérialité de l'épreuve qui lui arrive, de la chose qui lui arrive, et il ne va plus voir la neshama, l'âme de l'action qui lui arrive, alors sa emouna va se réduire, et là, il va être emmené à fauter. Pourquoi est-ce qu'un homme faute? Parce que tout simplement, il a oublié Dieu. S'il avait Dieu devant lui, il n'en viendrait pas à fauter. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous devons, première chose, afin de pouvoir lutter contre ce Yetzara, lutter, l'empêcher de séparer, de nous déconnecter de la emouna, de nous empêcher de nous faire croire qu'il y a une différence entre ce que je vis et la réalité spirituelle. Alors la première chose, ça c'est toujours ce qu'on dit au Bahourim, quand vous allez en France, quand vous partez, il y a une chose qu'il ne faut pas lâcher, ça je le dis à tout le monde, c'est de ne pas lâcher les trois tefilotes. L'épreuve, c'est justement qu'on va être amené à être chez papa, chez maman, à droite, à gauche, tata, chez tonton, et il n'y aura pas forcément des bêta-knesset, hein, où je vais aller, il n'y aura pas endroit où prier Mincha, prier Shacharit, prier Arvit, encore plus dur, d'abord en France, je suis parti en France, c'était extrêmement difficile de trouver un minyan après une certaine heure. Et toute la journée, il fallait l'organiser autour de ce minyan-là. La première chose qu'un homme il doit faire, il doit organiser sa vie, justement par rapport à les choses qui vont lui donner, repuiser la Emouna. Où est-ce qu'on va repuiser la Emouna? Dans la bêta-knesset, au moment des prières. Sa vie, mon temps, doit être organisé autour de ça. D'accord? C'est Mincha, l'heure de Mincha, qui va organiser mon temps. Voilà, Mincha, il y a 5 heures, il y a Mincha. Il y a ce que je fais avant Mincha et il y a ce que je fais après Mincha. D'accord? Il n'y a pas un truc qui va m'empêcher de venir faire Mincha. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est ça ce que je dis à tout le monde, c'est les brachot. Un homme, il doit, plus encore lorsqu'il est en France, s'efforcer de faire les brachot. Parce qu'en réalité, vous savez que, pourquoi est-ce qu'on fait, on doit faire les brachot? Il y a marqué que David Améler, il a instauré, qu'on dise chaque jour, combien de bénédictions? 100 bénédictions. Pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Alors là-bas, le Mishtabouré ramène, le Chazal, qui disent qu'à cette époque-là, il y avait 100 personnes qui mouraient, j'ai vu un autre endroit qui m'a ajouté, de façon anormale. 100 personnes par jour qui mouraient de façon anormale. Et donc, pour parer à ça, qu'est-ce qu'il a fait, David Améler? Il a instauré de dire les bénédictions. Quel rapport? Alors là-bas, il rajoute, Razal, que David Améler, il avait vu par esprit prophétique, roi HaKodesh, que la raison pour laquelle les gens y mouraient, c'est parce qu'il y avait une halachoute, une faiblesse dans la Emouna. Et il fallait faire quelque chose justement pour renforcer cette Emouna. Et c'est pour ça qu'il a instauré de dire chaque jour combien? 100 bénédictions. Quel rapport entre le fait de dire la bénédiction et la Emouna? Tout simplement. Lorsqu'un homme, il fait la bénédiction sur quelque chose, lorsqu'il va prendre une pomme, d'accord, il va comprendre qu'en réalité, cette pomme-là, elle n'a une réalité que par la volonté d'Hachem. Qu'il y a un lien, cette pomme-là, elle me sert de canal vers Akadosh Baruch Hu. Hachem, pourquoi est-ce qu'il a créé une pomme? Stam, il a créé une pomme pour que je me nourrisse? Pas du tout. Il aurait pu nous nourrir avec n'importe quoi, avec de l'essence ou avec une seule chose. Pourquoi il m'a nourri avec des pommes, des toutes sortes de choses, pour que à chaque chose que je vais prendre, que je vais bénir, je vais voir Akadosh Baruch Hu dans cette chose-là. Et donc chaque objet de la création, en réalité, il est là pour me rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans ce monde. Et ça va m'aider ainsi à renforcer la Emouna. Et c'est pour ça que David Améler, il a instauré de dire 100 bénédictions par jour. Le fait de dire des bénédictions, ça me lie, comme il dit Rav Shaya, ça me branche avec Hachem. On est branché avec Hachem par 100 façons. Faire une bénédiction, bien entendu, c'est pas de la faire n'importe comment, c'est de la faire joliment. Il ne reste pas beaucoup de temps, je voulais dire plus de choses. Mais bon, je vais raconter une petite histoire. Une histoire que j'ai racontée beaucoup de fois. Je l'ai raconté aussi quand je suis parti en France pour Tu Bishvat, dans plusieurs endroits. Donc, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas raconté. Par rapport aux bénédictions, il y a un jour, il y a la rabbinite de Belz, c'est un chassid de Belz. Elle a surpris un chassid en train de prendre un begeler. C'est un begeler? Comment dire begeler? Un bretzel. Il a pris un bretzel comme ça, il a pris le bretzel dans la main, et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a mangé. La rabbani a dit, quoi? C'est comme ça qu'on bénit? C'est comme ça que tu fais la bracha? Alors le chassid, il a eu honte. Mais en effet, c'est vrai que c'est honteux. Surtout devant la rabbanite. Bon, devant Hachem, je peux m'arranger avec lui, mais devant la rabbani, ça se fait pas. Il a dit, je vais te raconter une histoire. Donc la rabbani va raconter une histoire. Vous connaissez l'histoire? Vous connaissez pas l'histoire? Extraordinaire. Un jour, il y avait un agriculteur qui était devant son champ. Il a levé les mains vers Hachem, il a commencé à prier. Ribbono, je suis alors la maître du monde. Maintenant, je vais prendre mon blé et je vais le planter. D'accord? Maintenant, jusqu'à que le blé germe et devienne d'un beau grain de blé, il y a beaucoup, beaucoup de temps qui vont se passer, il y a beaucoup d'épreuves. Alors Ribbono, je te demande, fais que Bezrat Hachem, avec ton aide, que mon tracteur qui va maintenant labourer le terrain fonctionne comme il faut, que chaque graine, elle tombe dans la terre comme il faut. Que la pluie tombe et que cette petite graine que je vais planter va germer et elle va grandir. Et a marqué que les agriculteurs, en réalité, c'est des grands, grands balais mounins. C'est des gens qui prient beaucoup parce que vraiment, leur parnassa, elle ne dépend que de Dieu. Elle dépend d'un miracle, de la germination. Quoi, germination? Je sais pas, germination. Ça se... Ouais, aussi. D'accord, je sais pas comment on dit. Eh bien, mais il faut avoir beaucoup d'émouna. De croire qu'on va prendre un grain de blé, on va mettre dans la terre, ça va donner un truc. Il faut... Ah, beaucoup d'émouna, très atamétime. D'un autre côté, dans le grand container, là-bas, il y avait un petit grain de blé. Ce petit grain de blé, aussi, il a prié. Il a dit, Ribbono Shel Olam, maintenant, on va me prendre, on va me jeter dans la terre. Fais Bezrat Hashem, que je rentre bien profondément dans la terre comme il faut. Que l'eau me fasse germer. D'accord. Et Bezrat Hashem, que je devienne comme mon père et mon grand-père. Un joli grain de blé. Et je puisse grandir et être la fierté de la famille. Et Bezrat Hashem, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a écouté. Et il a écouté. Et la prière, la pluie, elle est tombée. Et ce petit grain de blé, il a commencé à germer, il a commencé à grandir. Il grandissait, grandissait, grandissait. Et il priait, Hachem, aide-moi à grandir. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Il lui a envoyé un ange spécial. La Gemara, elle dit que chaque grain de blé, il y a un ange qui a chaque petit grain, herbe. Il y a un ange qui vient et qui le frappe. Il lui pousse, pousse, pousse. Il aide à pousser. D'accord? Il a un moré pratique. Comment on dit moré pratique? Un professeur particulier pour l'aider à grandir. Et ce petit grain de blé, il grandit, 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 jusqu'à qu'il devient un grand blé. Il est devenu un grand, un beau, une belle gerbe de blé comme ça. Tout d'un coup, qu'est-ce qui va arriver comme ça? La moissonneuse batteuse. Oh! La moissonneuse batteuse, Ribbono sur le maître du monde. La moissonneuse batteuse, elle arrive là maintenant. Elle va me faucher. Fais Bezrat Hashem avec ta volonté Hashem, qu'elle me prenne et qu'elle me rende dans le container, que je ne sois pas ni écrasé, ni valsé à droite, ni valsé à gauche, que j'arrive avec tous mes frères. On arrive ensemble dans le container. Et Hachem, il a écouté, Bémet a été fauché, il arrive dans le conteneur. Et donc, il a été moissonné, il a été battu, et là, il est devenu un petit grain. Lorsqu'il est dans le petit grain, comme ça, il est dans le sac. Là, il prie Hachem, Hachem. Maintenant, on va m'emmener où ça? Au moulin, pour faire de moi de la farine. Fais, Bezrat Hachem, que je devienne une bonne petite farine, que je ne sois pas assez broyé ou trop broyé, que je ne puisse pas coller sur la meule, ni expulser à droite, ni expulser à gauche, que j'arrive avec mes frères, que nous arrivons ensemble dans le sac de farine. Et Bémet Hachem, il a écouté sa prière. Et il est arrivé dans le sac de farine. Là, moi, un sac de farine comme ça, vous écrivez, il a arrêté de prier, il a pas arrêté de prier, il a continué à prier. Et Bono Shel Olam, fait que ce soit un homme qui craint le ciel, qui m'achète. Et Bémet, qui c'est qu'il a acheté? Un monsieur qui craint le ciel, il a acheté. Et là, il était dans le paquet, il arrivait où ça? À l'usine. À l'usine. Et là, on l'a pris, on l'a mis dans le, comment on dit, pour faire le pétrin. Oh, on le pétrin, on l'a mis en versé l'eau. Et là, il commence à devenir une pâte. Il a fait maître du monde, fait Bezrat avec ton aide, que je ne finisse pas collé sur les parois du pétrin, d'accord? Que je finisse, d'accord? Juste avant ça, il avait fait une autre prière. Il voulait finir pâte, il voulait finir quelque chose. Il voulait pas finir sur les comment on appelle, sur les murs de Meacharim. Vous savez comment on colle les affiches à Meacharim? Avec de l'eau et de la farine, c'est dur de finir sa vie comme ça. Ouais, comme ça on colle les affiches. Il a prié qu'il soit quelque chose. Ben, Hachem, il a écouté. Et donc, il voulait pas être collé sur les bords du pétrin. Et Hachem, il a écouté. Et là, il est rentré dans le moule, il est devenu quoi? Un petit bretzel. Ça, c'est pas fini. Là, il rentre maintenant, il est sur le tapis pour rentrer dans le four. Là, il prie Ribbono Shel Olam. Je vois le feu du Gehinnom, là, le feu de l'enfer. Fais Bezrat Hashem qu'il ni me carbonise, ni que je sois pas assez cuit. Et je sorte un bon petit bretzel. Que les flammes ne me brisent pas, parce que s'il finit cassé, il finit sous le bête. C'est pas bon. D'accord? Qu'il finisse un bon bretzel. Et Bémet, il a traversé comme ça, avec fierté. Il a traversé le four, il est devenu un bon bretzel. On a versé sur lui quelques petits grains de sel et quelques petits grains de sésame, ça dépend le. Hein. Et là, il tombe directement dans le sac. Et là, il se trouve comme ça, dans le sac, dans une cage, il continue à prier, Ribbono Shel Olam. Fais que la personne qui m'achète, ça soit quelqu'un de Yireh Shamaim, que grâce à ça, j'arrive à mon tikkun, ma réparation absolue. Et qui c'est qui l'a acheté? La Gravani, donc, elle continue, elle dit, c'est toi qui l'as acheté. Et lorsque tu l'as saisi dans la main, qu'est-ce qu'il croit qu'il a arrêté de prier? Il a continué à prier. Ribbono Shel Olam, fais que ce juif-là qui m'a pris, qu'il fasse une bénédiction comme il faut, d'accord, pour que je puisse enfin à sanctifier ton nom, que je sois venu dans ce monde-là pour glorifier ton nom. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le petit bretzel. Ça fait pleurer. David, il pleure. Ça fait pleurer. Il a pris le bretzel comme ça et tu l'as gâché, tu l'as mangé comme ça, comme un je sais pas quoi. Shem Yishmor, te rends compte? Toutes ces prières, cet agriculteur, toutes ces prières que ce petit bretzel, il a fait, tu les as gâchées en un instant. C'est une jolie histoire. Vous croyez que c'est une histoire que je rigole? Je rigole pas du tout. C'est une vraie histoire. Une vraie histoire. Pourquoi je dis une vraie histoire? Assieds-toi. Assieds-toi, c'est une vraie histoire. Il veut pleurer, assieds-toi. Pourquoi c'est une vraie histoire? Vous connaissez Perek Shira? Perek Shira, c'est un... Comment on dit Perek Shira en français? Il y a une ségoula de dire un certain passage où là-bas on voit tous les éléments de la création qui prient. Parce qu'en réalité, Chazal nous enseigne que tous les éléments de la création ont pris. Le lion prit, la grenouille prit, chaque élément de la création prit. Et même le petit grain de blé, il prit. Vous savez qu'est-ce qu'il prit, le grain de blé ? Shir amalot mimaramakim karatirachem. Des profondeurs, je t'ai appelé. C'est-à-dire que même le petit grain de blé, lorsqu'il était dans les profondeurs de la terre, il appelait Hachem. Hachem, Hachem, il a prié. De quoi il a prié ? Il a prié justement qu'il serve, qu'il serve dans cette création à amener donc toute la création au Tikkun HaShalem. De quelle façon ? Lorsqu'un homme, justement, il va prendre un petit bretzel et il va faire la bracha, et de ça, il va comprendre qu'en réalité, sa parnassa, sa subsistance, elle ne provient pas de sa force à lui. Elle provient de qui ? Elle provient d'Hachem. Grâce à ça, il va renforcer sa emouna, et en renforçant sa emouna, il va quoi ? Il va devenir bon juif, il va avoir envie de faire les mitzvot, et grâce à ça, il va faire venir le Tikkun HaShalem dans le monde. D'accord ? Donc là, ce petit bretzel, il n'est pas venu pour rien dans ce monde-là. L'histoire, en réalité, elle est là pour quoi ? Elle est là pour nous montrer qu'en réalité, deux fois en réalité, je ne sais pas, que chaque élément dans la création, il est là pour nous aider à renforcer notre emouna et à renforcer, d'accord, nos bons traits de caractère. Donc, il ne reste pas de temps, malheureusement, j'ai encore plein de choses à dire, mais au moins, je finis sur une... Donc, comment faire pour la petite criminalité ? De ne pas les alzèles, de ne pas dénigrer la moindre petite mitzvah, la moindre petite bracha. Cette petite bracha là que je vais faire quand je serai dans la cité des 4000, c'est elle qui va me permettre de voir Kadosh Baruch Hu et qui va m'empêcher justement de tomber dans la avera. Bezrat Hashem Kadosh Baruch Hu yé bezrenu et Shiyeh Lachem Pesach Kasher Besameach.